Connaissances et témoignages.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui l'abbé Joël Guibert qui va nous entretenir des trois derniers ouvrages qu'il a publiés, trois ouvrages remarquables, très accessibles, que je vous recommande chaleureusement. « Vivre le Notre Père », paru aux éditions Teki, vendu 16 euros. « Jésus, maître de vie intérieure », chez Arthège, 335 pages, 18,90 euros. Et « Le combat spirituel », le dernier paru. Je vais dire un chef-d'œuvre, ce qui va gêner l'abbé Guibert, mais c'est vrai. Paru chez Arthège, 18 euros. Monsieur l'abbé, vous êtes une personnalité bien connue du public catholique, prêtre du diocèse de Nantes. Vous prêchez des retraites en France et à l'étranger. Vous écrivez des livres de spiritualité, toujours accessibles, mais d'une grande force, et qui sont là, dirais-je, pour secouer les consciences endormies. Au cours des deux années écoulées, vous avez publié les trois ouvrages que je viens d'évoquer. Deux abordent directement les personnes du Père et du Fils, tout en faisant la place belle au Saint-Esprit. Le plus récent aborde une question laissée trop souvent de côté à l'heure actuelle, celle du combat spirituel. Mon père, vous qui prêchez des retraites, qui êtes donc au contact des gens, répondez-vous à travers ces ouvrages à des questions que le public se pose ou cherchez-vous à combler certaines lacunes de l'éducation religieuse actuelle dont vous seriez témoin?
Si vous me permettez, Anne, je vais prendre du recul pour répondre à votre question. En fait, je le dis très simplement, hein, il n'y a aucun livre que j'ai écrit sans que le bon Dieu me le signifie. Lui, par contre, doit savoir ce dont le monde a besoin. Et donc, indirectement, bien sûr que j'essaye de répondre aux questions, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de répondre au bon Dieu qui, lui, sait, dans sa sollicitude paternelle, ce qui est bon pour le monde aujourd'hui.
Encore faut-il savoir entendre le bon Dieu. C'est un de vos mérites, vous expliquez aux gens comment apprendre à entendre le bon Dieu, ce qui, dans le grand chahut actuel, devient une gageure. Vivre le Notre Père est un petit ouvrage qui permet de redécouvrir dans toute sa force l'oraison dominicale que nous avons peut-être tendance, hélas, à rabâcher. Dieu est véritablement Père. Il est même la source de toute paternité. C'est une révélation que fait le Christ. Elle est pour l'époque révolutionnaire. Elle est même scandaleuse. Les apôtres sont surpris. Qu'est-ce que cette paternité de Dieu ?
On est devant un mystère, hein. Le Père de la Terre, nos Pères de la Terre, je pense par exemple à une Thérèse de Lisieux avec son roi. Ça devait être une superbe figure de la paternité. Je sais que la paternité est aujourd'hui très abîmée. Regardez la paternité du prêtre avec toutes ces histoires de scandales. Il n'en demeure pas moins que le Père de la Terre, s'il est bon, fort, doux, encourageant, il dit quelque chose de la paternité de Dieu. Mais ce qui est dit du Père de la Terre, on doit automatiquement dire que le Père du Ciel n'est pas comme ça, tellement il est infiniment plus bon, plus père, plus doux que nos Pères de la Terre.
Est-ce que nous n'avons pas justement, et ce depuis la Révolution française, un gros problème avec la figure paternelle? Est-ce que toute la politique depuis 220 ans ne consiste pas justement à déconstruire la figure paternelle, que ce soit à travers le roi, que ce soit à travers la famille? Et est-ce qu'à travers tout cela, en fait, ce n'est pas Dieu que nous cherchons à atteindre?
Oui, je crois que vous visez très juste et vous faites très très bien de remonter à la Révolution, le siècle des Lumières, qu'on devrait appeler les Ténèbres, a créé justement, a provoqué un grand soupçon sur la paternité. Il faut vraiment remonter jusque-là. Et aujourd'hui, on voit que c'est en cascade. La situation actuelle, le monde actuel, c'est vraiment décapiter le Père. Moi, je ne vois pas d'autre mot. Si vous me permettez une image, une comparaison, il me semble qu'aujourd'hui, l'histoire de notre postmodernité, appelons-la comme ça, peu importe, a quelque chose à voir avec la parabole de l'enfant prodigue. Il est très possible que nous soyons à la période où nous n'ayons plus rien à manger et nous allons bientôt être obligés de manger les caroubes que mangent les cochons. Il me semble de plus en plus donc que on va en avoir marre de ce déconstructivisme, de ce nihilisme, de cette négation du père, avec tout ce que ça engendre aujourd'hui. On commence à voir les méfaits de cette deuxième révolution pour la France, qui est le moment mai 68, qui est une décapitation du père. Et donc, il est très possible que là, on se trouve dans cette dernière trajectoire où je pense que l'idéologie du déconstructivisme va être de plus en plus totalitaire. Mais les gens, le peuple, commence à se rendre compte, on nous a menti. Le père, même si on l'a défiguré, il existe et le vrai père du ciel existe. Et il est possible qu'au bout d'un moment, on va ne plus avoir envie de manger cette nourriture des cochons et on va revenir vers le visage du père, le vrai, le bon, le bien.
Pensez-vous que ce soit encore envisageable dans un monde où justement on arrive, vous l'évoquez dans votre livre, à dire que Dieu pourrait être aussi bien appelé notre mère, ce qui d'ailleurs n'est pas totalement erroné dans la mesure où si une mère oubliait son enfant, moi tu les inscris sur la paume de mes mains, je ne t'oublierai pas. Bon, on sait bien que Dieu peut avoir un amour maternel pour sa création, mais est-ce que vous pensez véritablement que notre humanité n'en est pas arrivée à un tel degré de haine de tout ce qui est paternité, autorité, figure d'autorité, que Dieu en est défiguré, comme vous le disiez à l'instant?
Oui, c'est vraiment le cas aujourd'hui. Hein. Il y a une haine du père. Vous évoquiez la Révolution française. Il me semble que on atteint la lutte des classes. La deuxième révolution est passée du côté de la Russie. Ça a été la lutte des classes. Après, on se dit, tout ça, c'est terminé, on n'en veut plus. Non, elle a muté. Et aujourd'hui, on est dans une mutation du marxisme. Vous évoquiez la confusion des genres, c'est le cas de le dire. Eh bien, on a actuellement, on voit bien, une lutte des classes au niveau des sexes. On a une lutte des classes au niveau de la race. On a une confusion totale. Et tout ça, c'est très simple. Le Concile Vatican II le dit. Quand le créateur disparaît, la créature disparaît aussi, s'évanouit aussi. Quand la figure du père est rejetée, la créature, le fils, ne sait plus qui il est. Regardez aujourd'hui comment l'animal est préférable à l'homme selon une certaine idéologie écologique.
Et même le végétal. Nous en sommes arrivés à la charte des arbres. Quel que soit mon amour des arbres, je ne suis pas certaine qu'il faille faire une charte des végétaux. Mais mon père, ce que vous dites est profondément vrai. Mais peut-on encore aujourd'hui espérer que cette figure du père renaisse, que n'est-ce pas cette mutation du marxisme dont vous parliez, n'est-ce pas ce qu'avait dit Notre-Dame de Fatima quand elle annonçait que les erreurs de la Russie se transmettraient au monde entier?
Et j'ai lu quelque chose à ce sujet-là. Je crois que Lucie a été interviewée et elle disait oui, ce sont les États-Unis. L'idéologie. Et on le voit bien aujourd'hui, l'idéologie marxiste qui s'est répandue. Alors on va dire, c'est le capitalisme, c'est le libéralisme. Au niveau sociétal, c'est là-bas que tout se joue. Regardez aujourd'hui, toutes les affaires de lutte de classe raciale, de sexe, viennent des universités américaines. On voit bien que l'idéologie marxiste, à part la Chine et quelques autres, ça tient, mais au niveau de la perversion de l'anthropologie, de l'homme, du fils, eh bien on voit bien que ça s'est répandu dans le monde.
Les années et les idées de 68 sont d'ailleurs parties des campus américains de Californie. Mais cette haine du père a gagné l'Église elle-même. Ce que vous soulignez dans votre livre et que je trouve très important, c'est cette difficulté que l'on éprouve jusque dans les paroisses, jusque parmi les catholiques pratiquants, à adorer l'abandon de la génuflexion, l'abandon de l'agenouillement pendant la consécration, en sont des signes. Est-ce que adorer, s'agenouiller, serait une aliénation de notre liberté? J'ai l'impression pour ma part que c'est tout le contraire.
Oui, Et ça me permet de prendre un peu de recul. Le père, pour voir avoir un vrai visage du père, il faut conjuguer tendresse et transcendance. À la fois le très haut et le très bas. Et l'adoration vient nous révéler que le très bas, celui qui s'est fait très bas, on adore le Christ eucharistique, il n'a pas pu se faire plus bas, il s'est fait pain. Eh bien, en adorant, en s'agenouillant, si bien sûr notre santé nous le permet, on ne se rabaisse pas, on reconnaît la transcendance, le très grand. Je crois que c'est notre ami, le très grand Benoît XVI, quand il est venu en France, il a dit « L'homme n'est jamais si grand que lorsqu'il se met à genoux devant son père, et c'est justement cet agenouillement devant le père qui lui permet de se préserver des idoles. Regardez aujourd'hui, on a évacué tout cela, tout ce qui est adoration, et on voit que les idoles, il y a une prolifération des idoles comme on n'en a jamais vu.
Les plus médiocres, les plus basses, mais n'est-ce pas ce que disait le curé d'Ars lorsqu'il arriva dans sa paroisse, c'était un village 10 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Bon, ce ne sont pas tout à fait les bêtes, quoique, mais...
En tout cas, on adore la bête. Je suis frappé de voir dans les retraites comment la disparition de Dieu, du Père, de la figure du Père, de la Trinité Sainte, fait que le voisin du dessous s'installe. Je suis impressionné de voir ça. Là, je viens de terminer en lecture. Certes, c'est assez roboratif, mais c'est extraordinaire. Une thèse de doctorat du Père Golfier sur... sur Satan, on voit bien qu'aujourd'hui, il a un boulevard, littéralement, un boulevard aujourd'hui, la bête.
Oui, c'est tout à fait normal si vous chassez Dieu, comme la nature a horreur du vide. Mais pourtant, vous avez une citation, je trouve, assez remarquable. Vous parlez de ce musulman à qui on explique ce qu'est l'Eucharistie. Et qui dit « Mais si je croyais que Dieu est présent dans ce morceau de pain, je me traînerais en rampant jusqu'à l'autel. » Alors, l'Église n'a jamais demandé qu'on rampe jusqu'à l'autel, mais il y a peut-être quelque chose à méditer dans cette formule.
Oui, c'est très fort, oui. C'est très très fort. N'oublions pas Charles de Foucault qui a été retourné par l'adoration de nos frères musulmans qui se mettent à genoux et la face contre terre. Ce musulman... à qui un prêtre, je rappelle, donc, ou un laïc disait « Nous croyons que Jésus est présent. » Attends, non mais moi, si, avec ma foi, si je croyais vraiment que Dieu est présent, mais j'irais en rampant. C'est-à-dire, curieusement, le musulman a une conception très très forte de la transcendance de Dieu. À mon avis, une des crises qui a suivi le Concile Vatican II porte justement là-dessus. C'est-à-dire que vous voyez, toutes ces notions de miséricorde, de Dieu très tendre, de Dieu très, très proche, très bas.
Qui sont vraies d'ailleurs.
Et qui sont complètement vraies. Moi, je ne fais qu'enseigner ça dans les retraites. Mais attention, quand c'est enseigné de manière unilatérale, vous aboutissez à quoi ? À un Dieu copain. Et moi, ce dont je m'aperçois, c'est que ce Dieu copain n'engendre pas des conversions parce qu'il n'est pas intéressant. Puisque de toute façon, pour reprendre ce que dit le pape François, il est mondain. Il n'est rien d'autre qu'un élément du monde.
Voilà, alors que, comme vous le rappelez, Dieu est le tout autre. Ce qui ne signifie pas qu'il soit inaccessible, parce qu'on risque de tomber dans l'excès contraire, qui serait de penser que Dieu ne peut pas être rejoint par les hommes et encore moins se communiquer.
Écoutez, je vais vous partager quelque chose. J'étais, il y a quelques années, il y avait, je ne vais pas la nommer si ça ne vous embête pas, chers auditeurs, on va l'appeler une prophétesse, une dame qui circule à travers le monde et qui, semble-t-il, a des choses qu'elle reçoit de Dieu pour le monde, pour l'Église actuellement. Je vais à cette conférence car j'avais été touché par ses écrits. Je vais à la conférence, l'amphithéâtre est plein, je suis déjà impressionné, et la personne en question évoque ses relations avec le Seigneur, avec Dieu. Et à un moment, elle parle d'un Dieu extrêmement, extrêmement proche, le Père, etc. Et je me dis intérieurement, si dans 5 minutes, elle ne m'a pas évoqué l'autre face de la transcendance du Père, je quitte la salle. Dans la minute, elle évoquait de la part de Dieu. Mais n'oublie pas que je suis resté jusqu'à la fin. Ça, c'est un critère pour savoir si on a à avoir affaire au vrai Dieu, au vrai Père. Les deux, comme vous l'avez dit, Une transcendance qui n'est absolument pas froide, loin, etc., etc., mais qui est le tout autre. Comme disait quelqu'un, je crois que c'est Clavel, je ne vais pas le dire pour nos auditeurs, Dieu est Dieu, non de... Hein, bon, tout le monde a compris. C'est-à-dire qu'il est Dieu, il n'est pas un copain, il n'est pas un élément, il n'est pas une cause seconde.
Mais c'est ce qu'il dit à Catherine de Sienne dans les dialogues. Je suis celui qui est tout et tu es celle qui n'est rien.
Ouais. Je crois que c'est une des faiblesses de notre discours ecclésial actuel. Je ne suis pas sûr que ça ramène beaucoup de gens à l'église. C'est ça qui me frappe, c'est que les convertis, l'autre jour je recevais un converti... qui était dans le showbiz, donc vraiment une conversion magnifique. Moi, je m'aperçois que le vrai visage de Dieu, même avec ce qui ne se vend pas, ce qui n'est pas très vendable aujourd'hui, est finalement ce qui touche les âmes. Ils veulent d'un Dieu et non pas d'un super-homme, j'ai envie de dire un homme agrandi. Ils veulent le vrai Dieu qui conjugue en même temps ce Père, transcendance et immense proximité.
Parce que à quoi nous servirait un Dieu qui ne serait pas au-dessus de nous ? Vous parlez de Dieu copain, oui. Je me souviens à l'aumônerie quand j'avais 15 ans, oui, le Christ avait tendance à être le Dieu copain. Mais ça ne peut pas suffire.
Non, non.
C'est le fond du problème. Mais cela entraîne, et c'est peut-être un autre problème, un des plus graves peut-être, je vois beaucoup d'arbres, et moi-même je n'en suis pas exempte, personne n'en est exempt probablement. C'est cette crainte de l'abandon que nous avons vis-à-vis de cette providence divine. Nous avons tendance, le pape parlerait peut-être de pélagianisme, n'est-ce pas ? Mais nous avons tendance à compter sur nos propres forces plus que sur la providence. Dans le combat spirituel, vous insistez sur cette nécessité de s'abandonner à la providence, d'apprendre l'abandon. Bon, disons les choses tout de suite. Hein. Dès qu'on s'y est essayé, on sait très bien que c'est très difficile. Ce serait trop beau que ça fonctionne en claquant des doigts. Mais pourquoi est-ce absolument nécessaire d'en passer par là ? Comment faut-il s'y prendre ?
Écoutez, si vous me permettez de me mouiller un petit peu, j'ai raconté ça dans les premiers livres, là. J'ai vécu une première conversion alors que j'étais ordonné depuis 15 ans. Hein. Bon, je ne faisais pas des choses mauvaises, ce n'est pas ça, mais j'ai vécu une sorte de conversion de... non plus d'un Père Joël qui travaillait pour Jésus, mais un Père Joël qui travaillait à partir de Jésus. Et ce qui est très intéressant, c'est que 5 années après, on pourrait se dire, tiens, ben, il a vécu l'essentiel, c'est réglé. 5 années après, j'ai vécu, on voit vraiment que la conversion, c'est vraiment par seuil. J'ai vécu quelque chose de plus fort, et c'est ce que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire la découverte du visage de la Providence qui ne s'occupait pas simplement de la vie du Père Joël aux grands virages et aux grandes étapes de sa vie, mais dans les rien du quotidien. Dans votre question, il y avait un double volet. Voilà moi ce que j'invite à dire, mais il y avait un double volet. Et la deuxième question, c'était comment on fait concrètement ? Eh bien écoutez, quand on a conscience, quand on découvre que le Père du Ciel, qui est l'autre nom de la Providence, est impliqué dans les moindres événements de notre vie, alors que se passe-t-il ? On va accorder une importance beaucoup plus importante aux petits détails. Et les premiers pas, c'est extrêmement simple. Ça va être, dès qu'il nous arrive un événement, eh bien on va voir la main de la Providence. Et ça change tout, je le dis à nos chers auditeurs. Moi, ça a énormément pacifié ma vie et surtout rendu extrêmement fécond mon ministère.
Il faut cependant être arrivé à un certain degré de détachement, car certains événements douloureux peuvent être vécus difficilement en les attribuant à la Providence, du moins dans un premier moment.
Oui, vous avez raison. C'est là où nous buterons de toute manière. C'est la croix, l'épreuve. En attendant, chers auditeurs et chère Anne, le ressort le plus puissant, ce sont les épreuves. Attention, je ne fais pas de dolorisme, je ne vous demande pas de vous complaire, je ne vous demande pas de vous inventer des croix, mais si vous voulez connaître une trajectoire extrêmement puissante, ne jetez pas les épreuves. Je crois que c'est Marthe Robin qui disait que les épreuves dans la vie sont les lieux des plus grands miracles pour Dieu. Dieu ne veut jamais directement le mal qui nous arrive. Mais comme dit saint Augustin, repris par saint Thomas d'Aquin, il est tellement puissant dans sa providence qu'il qu'il est capable de se servir d'un mal qu'il ne veut pas, jamais, lui, en vue d'un plus grand bien. Moi, ce qui a dilaté ma vie, et je le dis à nos auditeurs, je vous respecte dans votre cheminement, si c'est le temps de la révolte, c'est le temps de la révolte. Mais sachez, la révolte décuple la souffrance. Mais si vous voulez progresser, il y a un moment où vous allez arrêter d'accuser Dieu et vous allez, pour reprendre vos mots, entrer dans l'abandon à Dieu sans chercher à comprendre sur le moment. Mais parce que c'est l'abandon qui va donner une nouvelle compréhension. Il y a plusieurs types de compréhension. Il y a la compréhension purement intellectuelle. Et puis, il y a la compréhension par l'adoration. On revient à notre sujet de départ. La compréhension par l'amour. Et là, quand on lui laisse ces clés-là, quand on lui permet ce laisser-passer, eh bien, Dieu va venir et il va lui-même nous donner sa compréhension. Parce que la sagesse de la croix, ce n'est pas un truc qu'on peut lire dans les livres, c'est l'Esprit Saint.
N'est-ce pas ce que disait cette mystique anglaise qui n'est pas suffisamment connue en France, Sainte Julienne de Norwich, lorsque, se désolant devant les souffrances du monde et de l'humanité, le Christ lui répond à la fin, tu verras que tout était bien. C'est peut-être nous qui manquons effectivement de confiance et qui ne sommes pas capables de voir au-delà des apparences. N'est-ce pas ce que disait également le Padre Pio à propos de, disait, c'est le destin de l'humanité, c'est comme une tapisserie dont vous verriez que l'envers, puisque vous ne voyez pas le bon côté.
Ah, c'est magnifique ce que vous dites. Je l'avais oublié, celle-là. Ah, c'est magnifique. Oui, ce qu'il nous faut, en fait, ce qu'il nous faut, c'est la foi. J'entends un prédicateur de renom dire encore, en fait, on ferait que prêcher la confiance et la foi aux gens. On ne ferait que ça. Un peu comme Saint Jean, paraît-il, sur la fin de sa vie, qui disait « Aimez-vous les uns les autres ». Eh bien, prêcher que la confiance, on ne perdrait pas son temps.
Je pense que non, mais c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à prêcher ou à conseiller, à soi-même d'ailleurs. Mais est-ce que justement dans notre monde actuel, je pense que la crise que nous sommes en train de vivre, la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre est un révélateur de ce problème, nous ne sommes pas justement dans une société à la recherche du risque zéro, de l'absence de croix, de l'absence de souffrance? Et dès lors, est-ce que plus que jamais, la croix n'apparaît pas comme une folie au monde païen dans lequel nous évoluons?
Oui, c'est vraiment ça. Je pense qu'on atteint le mur, là. Il y a, depuis des décades, un déni complet de la souffrance. Au tel point, c'est que, conjugué avec le transhumanisme, on nous fait croire qu'on va pouvoir bientôt tuer la mort. Et quelque part, en arrière-fond de la pandémie, et des mesures sanitaires, qui bien sûr fallait prendre des mesures sanitaires, mais si vous voulez, l'idéologie qui est derrière, c'est un refus de la condition limitée et mortelle de l'homme.
Oui, comme si on pouvait se débarrasser de cette condition mortelle. C'est le grand mensonge de notre époque et du transhumanisme, nous laisser croire que nous serons comme des dieux. Nous savons très bien qui est celui qui a dit cela.
Je crois que vous atteignez le cœur du problème de notre société actuelle. C'est vous serez comme des dieux, quoi. On le voit avec les bébés éprouvettes, les bébés qui on va pouvoir faire, toutes ces expériences qu'on va pouvoir faire à partir du génome humain. Voilà. D'ailleurs, certaines personnalités l'ont dit explicitement, hein. Mais le problème, c'est que le démon a bien réussi à dire « vous serez comme des dieux », mais une fois que la pomme, malheureusement il n'y a pas de pomme, enfin disons le fruit défendu a été pris, le démon a révélé son vrai visage, il nous a menti. Et là on arrive actuellement à cette situation où, un peu ultime, où on arrive à faire croire à la masse que ça va se produire. Et que très rapidement, on va tomber très, 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 très bas. De toute façon, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je suis habité par une immense espérance. Mais je ne vois pas d'autre solution actuellement que d'aller dans le mur.
Vous serez comme des dieux, c'est bien la promesse démoniaque par excellence, mais on sait très bien que l'arbre de vie à cet instant-là se transforme en arbre de mort et que le seul remède que Dieu y apporte, c'est de transformer l'arbre de mort en arbre de vie. Et l'arbre de vie, dans ce cas-là, c'est la croix. Nous revenons toujours au même problème. Pouvons-nous encore parler de la croix à notre monde ? Mon père, on en revient toujours à la même question.
Non, vous dites bien les choses, c'est exactement ce qu'a fait Jésus. L'arbre de la mort est devenu l'arbre de vie. La croix, c'est simple. Moi, je dirais une première chose. Une parole de Marthe. Ne nous inventons pas nos croix. Mais quand elles viennent, portons-les avec Jésus, avec Marie. Ensuite, deuxième pas, n'envisageons pas les grandes croix. Commençons par les petites croix. Pourquoi ? Si on est déjà à cran avec la croix, faut être suffisamment humble pour commencer par des petites croix. Cet abandon dans les petites croix va petit à petit déplier le mauvais pli qui est en nous. Ce mauvais pli d'être arc-bouté contre le projet de rédemption de Dieu qui s'est fait il y a 2000 ans par son Fils et qui se produit dans nos vies par les moindres croix. Nous pouvons devenir petits rédempteurs. Mais ça ne se fait pas à la force du poignet, ça ne se fait pas en se révoltant, ça se fait en accueillant celui qui est présent au cœur de nos croix. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos, dit Jésus dans l'Évangile.
Chers auditeurs, nous étions avec l'abbé Joël Guibert qui nous a passionnés une fois de plus. Merci infiniment.
Je vous remercie, Anne.